Quand il est dit que Dieu est amour, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Ça veut dire que la substance même de Dieu, je l'ai déjà dit, c'est l'amour. Ce qui veut dire que quand Dieu manifeste, se manifeste, c'est son amour que tu reçois, et ça veut dire que quand tu reçois son amour, c'est la substance même de Dieu qui vient chez toi, en toi. Donc quand il est dit « ton amour est là », ce n'est pas un sentiment positif de Dieu à notre égard uniquement. Ça veut dire que Dieu est là, lui-même, physiquement, dans sa substance, à côté de nous, au-dessus de nous et en nous. Vous comprenez ? Pourquoi je vous dis ça ? On va parler de l'amour de Dieu ce matin. Mais quand on chante ça, « ton amour me surprend, il m'envahit », c'est que c'est véritablement Dieu lui-même qui a décidé, dans sa souveraineté et dans sa grâce, de dire « je ne vais pas être un Dieu lointain que les gens adorent sans le connaître, mais je vais être un Dieu qui va faire ce qu'il faut pour pouvoir me réconcilier moi-même avec les hommes, de manière à ce qu'enfin il puisse y avoir une union entre nous qui est la même qu'entre un mari et sa femme. » Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'amour de Dieu est quelque chose qui est, je dirais, physiquement tangible ? Amen ? On va parler de ça ce matin. On va parler de ça. Alors j'espère que vous avez votre Bible parce qu'on va regarder plusieurs versets. Et moi, je vais vous la lire dans la version Parole Vivante ce matin, que j'ai trouvée très parlante sur certains points. Mais en haut, ce sera la Louis II qui va s'afficher. Donc, l'amour de Dieu. Vous savez, regardez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Il est dit au verset 17, « Si quelqu'un, alors dans la parole vivante, c'est « entre en communion vivante avec le Christ ». Dans cette version-ci, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Peut-être dans votre version, vous avez « si quelqu'un est en Christ, entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. » C'est-à-dire que, contrairement aux autres religions, tu ne peux rien faire. Tu pourras y passer ta vie, ça ne changera rien. Tu ne pourras pas te transformer. Tu ne pourras pas te recréer. Il a fallu que ça soit Dieu lui-même qui fasse ce qui était nécessaire de faire pour pouvoir permettre cet état. Ensuite, il est dit, il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Et il nous a confié le ministère de la réconciliation. Il ne parle pas qu'au pasteur ici, il parle à tous ceux qui sont entrés dans cette communion vivante avec le Christ, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont, je dirais, fusionné avec Jésus, parce que c'est de cela dont il s'agit. Et il nous a confié le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que cette parole de réconciliation que tu as comprise, que tu as saisie et qui a changé ta vie, il te charge de l'annoncer aux gens autour de toi. Il y a une note de bas de page très intéressante ici au niveau de la réconciliation. Il nous est dit, lorsque Corinthe fut reconstruite par... Corinthe, c'était une ville énorme à l'époque. C'était une mégapole ou une mégalopole. Ce n'était pas une ville de province. C'était quelque chose qui, dans le bassin méditerranéen, brassait énormément de gens qui passaient par Corinthe. Tout type de gens, tout type de pratiques, tout type de religion, tout type de passé, tout type de casier judiciaire. Parce qu'il nous est dit que lorsque Corinthe fut reconstruite par Jules César en 44 avant Jésus-Christ, l'empereur fit publier un édit de réconciliation accordant à tous ceux qui viendraient s'établir dans la ville nouvelle une amnistie. Est-ce que vous imaginez le genre de clientèle qui a pu se ruer sur Corinthe pour être amnistié ? Ce n'étaient pas des petits gens, des petits bourgeois BCBG qui sont venus habiter à Corinthe. C'était la lie de l'humanité. C'était la racaille qui est venue s'établir à Corinthe. C'était les violeurs, les tueurs, les meurtriers, les pédophiles. Voilà qui sont les gens qui sont venus fonder cette ville. Et voilà, nous sommes quoi ? Allez, en 50 après Jésus-Christ, au moment où c'est écrit, donc ça fait quoi ? À peine un siècle que cette amnistie a été accordée. C'est-à-dire qu'au maximum, les gens qui sont venus à ce moment-là ont eu quoi ? Ils étaient grand-père ou arrière-grand-père peut-être, maximum. Mais je pense que s'ils étaient toujours en vie, leur conscience n'était toujours pas lavée de ses péchés. C'est-à-dire que leur casier judiciaire avait peut-être été effacé, mais eux-mêmes n'étaient pas lavés de ses péchés. Ils laissaient leur passé derrière eux, mais pas tant que ça, parce que dans leur tête, c'était toujours le cas. Vous savez, on parle souvent des malédictions générationnelles. Et je ne crois pas, personnellement, que lorsqu'on est en Christ, ça se transmette. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il y a des façons de penser qui se transmettent. La vraie malédiction générationnelle, elle est là. Elle est dans ce que ta mère ou ton père t'a programmé pour penser. Peut-être qu'elle ou lui l'avait le même reçu de son propre père ou de sa propre mère. Et voilà que Paul est en train d'utiliser ici le mot « réconciliation ». Et il nous est dit « ce souvenir pouvait éclairer pour les Corinthiens l'œuvre du Christ et celle des apôtres qui, comme les héros à UTS, les porte-paroles de César, parcourent l'Empire pour proclamer cette bonne nouvelle ». C'est-à-dire que Paul est en train de s'adresser ici à des gens qui ont un casier judiciaire mental et dans leur cœur qui est lourd. Et il est en train de leur dire « c'est la réconciliation ». C'est-à-dire que Jésus a fait ce qu'il fallait pour pouvoir réconcilier Dieu avec les hommes. Et puis il nous a dit quelque chose qui est intéressant également. Il nous a dit « En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. » C'est-à-dire que Jésus n'était pas simplement le porte-parole de Dieu. Et c'est en cela que les musulmans se trompent, entre autres. C'est qu'ils en font un simple prophète, c'est-à-dire un être humain, mais qui, inspiré par une divinité, va parler ce qu'il a à parler. Ce n'est pas le cas. Jésus, c'était la substance même de Dieu. C'est-à-dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu en ce sens que ce serait symbolique, il est véritablement une émanation de Dieu lui-même. Comme si tu as un immense, je ne sais pas, tas de pâtes à modeler et que tu vas en prendre un morceau pour faire autre chose. C'est la même pâte à modeler. Vous comprenez ? Donc quand il nous est dit que Jésus a fait tout cela et qu'il nous est dit que c'est Dieu lui-même qui se réconciliait, ça n'est pas une métaphore. Dieu s'est incarné pour venir mourir, vivre et mourir ici, afin de pouvoir nous réconcilier avec lui-même. Vous comprenez bien que quand il est question de l'amour de Dieu, quand on sait que Dieu est amour, tout ça est lié. Tout ça est lié. Ensuite, il nous est dit, c'est donc un message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargé de proclamer publiquement, puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché, pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait à la croix. Il s'est chargé lui-même, il est devenu péché, de manière à ce que dans cet échange, nous puissions débarrasser de notre péché, revêtir la justice de Dieu à l'intérieur de nous. Et tout ça s'est fait par l'amour, non pas qu'il a, mais qu'il est. Amen ? Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'on va parler de l'amour de Dieu aujourd'hui à l'égard des autres, mais la Bible nous dit très clairement que tu ne pourras jamais manifester l'amour de Dieu à l'égard des autres si toi-même, tu ne le reçois pas à ton propre égard. Ça commence comme ça. Tu reçois et ensuite tu donnes. Comme quand tu as une révélation. Quelqu'un a déjà eu ici la révélation d'un verset, par exemple, ça a apporté une lumière particulière. Bon, tu vas saouler ta famille au petit déjeuner avec ta révélation et eux qui ne l'ont pas eu restent le nez dans leur café en disant « Mais va-t-elle se taire ?» Et tu es frustré parce que tu ne parviens pas à communiquer cette passion, cette révélation, cette ouverture que tu as eue. C'est la même chose. Quand tu comprends l'amour de Dieu, quand tu le vis, quand tu l'expérimentes, quand tu le reçois, tu dis « Oui, j'ai eu ça à la nouvelle naissance, mais depuis, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles. » Mais la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu n'est pas que pour la nouvelle naissance. Et on va le voir ensemble. Réponds-lui par texto que l'amour de Dieu est pour lui aussi. Romains chapitre 5. Il nous est dit au verset 6. En effet, lorsque nous étions encore, j'aime cette traduction, empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Ensuite, je cherche un autre verset. Vais-je le trouver ? Où il est dit que l'amour de Dieu est déjà déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est au-dessus, pardon, 5-5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Vous savez, dans ces trois mots, je le dis et je le répète, il y a plus que ce sur quoi on pourrait méditer toute une vie. Il y a plus que ce que tu peux comprendre simplement là le dimanche matin. Dieu t'aime. Dieu, il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus absolu que lui. C'est lui qui aura le dernier mot, quoi qu'il arrive. Même. Il faut qu'on médite là-dessus. Parce que ça ne peut pas se saisir en deux secondes comme ça. Dieu m'aime. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis le fils bien-aimé de Dieu. Tu peux te le dire à toi-même. Je suis la fille bien-aimée de Dieu, chérie de Dieu. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais... Mais on s'en fout, ça n'a aucune importance. Il est là le message de l'Évangile. La grâce, elle est là. C'est que arrête de vouloir tout jauger à la hauteur de tes propres paramètres. Ça vient d'en haut et tu ne peux rien y faire. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Il est dit ici, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien, tout comme le baptême du Saint-Esprit, ça n'est pas une expérience unique, mais c'est quelque chose qui se renouvelle. Tu pries en langue, tu passes du temps dans les Écritures, tu es en communion avec l'Esprit et l'Esprit te remplit, alors il remplit autant que tu en as besoin, aussi souvent que tu en as besoin, ton cœur de l'amour de Dieu. Qui n'est pas uniquement un sentiment favorable à ton égard. C'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. On sait par exemple que l'amour de Dieu, il nous est dit dans Jean, chasse la crainte, dans 1 Jean, chasse la crainte. Si tu as la moindre peur dans ta vie, des fois il faut aller creuser un peu loin parce qu'elle se cache sous d'autres symptômes, mais la cause, c'est bien souvent la peur. L'amour de Dieu, vous savez, un sentiment favorable à mon égard ne suffira pas. Il me faut une puissance à l'intérieur de moi pour chasser cette crainte. Le fait de savoir que quelqu'un a des sentiments favorables à mon égard ne me suffit pas pour pouvoir chasser cette crainte qui est peut-être enracinée en moi depuis des années. Il faut une puissance. À un moment donné, il ne s'agit pas simplement que le médecin te dise « Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour vous. Si tu es malade, tu as besoin d'une substance qui vient à l'intérieur de toi et qui va aller bombarder tes bactéries, tes microbes, tes cancers, tes tumeurs ou tout ce que tu veux jusqu'à ce qu'elles soient totalement détruites et que ça soit chassé loin de toi. L'amour de Dieu, c'est exactement ce que ça fait à l'intérieur de toi. Il nous a dit que la foi, dans Hébreux 11, il nous a dit que la foi, c'est la substance même. La substance même. Ce n'est pas juste une théorie. Ça n'est pas juste une philosophie. C'est un matériau tangible que tu, qu'à l'intérieur de toi, tu utilises pour te connecter à ce que Dieu veut te donner. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une réalité au-delà de ce que nos cinq sens peuvent percevoir ? Et que cette réalité, peut-être qu'on n'a pas les moyens scientifiques pour l'instant de la canaliser, de la quantifier, de la démontrer, mais elle existe. L'amour de Dieu est une réalité. tout comme la foi. Ok ? L'amour de Dieu a déjà été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Du coup, ce verset Jean 3,16 prend une tournure différente. Le titre de mon message aujourd'hui, parce que c'est là où je veux en venir quand même, c'est « Aimer les gens un à un ». Mais je ne peux pas parler de l'amour qu'on est censé avoir pour autrui si je ne parle pas d'abord de l'amour que Dieu a pour nous. Dans Jean 3,16, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, tant aimé le monde. Si Dieu a aimé le monde, ça veut dire qu'il n'a pas simplement éprouvé un sentiment favorable à l'égard du monde, mais ça veut dire que lui-même est venu dans le monde. Puisque Dieu est amour. S'il manifeste son amour à l'égard du monde, c'est que c'est lui-même qu'il transporte jusque dans le monde, puisqu'il est amour. Vous comprenez comment ça fonctionne ? J'en ai perdu certains. Ok. Si Dieu a tant aimé le monde, il est venu lui-même dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'il a donné son Fils, son unique, c'est-à-dire lui-même incarné dans Jésus, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Ou dans cette version, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces 10 derniers jours, il y a quelque chose sur lequel le Seigneur m'a travaillé, c'est le fait qu'il ne voit pas le monde comme une masse, comme un ramassis de gens. Toi, par exemple, si tu prends, Google Maps et puis que tu zoomes sur un stade au moment d'un concert, tu vas voir uniquement des fourmis, là. Tu vas voir des petits points et tu vas, ouais, bon, tu rentres dans un grand événement et tu dis, oh, il y a beaucoup de monde. Non, mais Dieu ne voit pas le monde comme le monde. Il voit le monde comme Chantal, comme Jean-Marc, comme Béatrice. Il connaît ton nom, il connaît ton adresse, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, ton passé, ton futur, le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans tes pensées, ce que tu as déjà dit, ce que tu n'as jamais dit. Tu dis, comment c'est possible ? Il doit avoir un super calculateur. Les ordi de la NASA, c'est rien à côté. Chaque personne. Claude Lelouch avait dit un truc du genre, lui qui est réalisateur, il avait dit, ce qui est incroyable avec Dieu, c'est qu'il a réussi à réaliser un film avec 6 milliards de premiers rôles. Quand tu comprends ça, quand j'ai compris ça, bon, d'abord je me suis mis à pleurer. Parce que ça veut dire que je ne suis pas un membre de la masse, je ne suis pas juste une pierre dans un mur. Et je crois qu'il nous faut relire les Écritures avec cette pensée en tête. Ce Jean 3,16 qu'on lit depuis des dizaines d'années. Dieu a tant aimé le monde, donc voilà, il y a un grand sac, plein de pommes de terre à l'intérieur, afin que quiconque, bon, c'est pas très précis quiconque, hein, c'est quiconque, quoi, c'est tout le monde, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il, et j'ai même lu qu'ils aient la vie éternelle, mais c'est un singulier qui est utilisé, qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime bien la version qui est là, je vous la relis. Pour que aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Il y a une individualisation de chaque être humain dans l'amour de Dieu, dans le plan de Dieu. Et j'ai compris pourquoi depuis des années, on me dit, tu sais, si tu avais été le seul être humain sur la terre, Jésus serait quand même venu mourir pour toi. Pourquoi ? Parce que pour lui, tu es le seul être humain sur la terre. Tu dis, mais le mec d'à côté, il est aussi le seul être humain sur la terre. En tant que parent, quand on a plusieurs enfants, je suppose, parce que j'en ai pas encore plusieurs, mais que c'est difficile de garder un certain équilibre dans l'amour. Les parents refuseront de l'admettre, bien entendu, mais ils ont toujours un préféré. Il y en a toujours un qui colle plus à la personnalité du papa ou de la maman, ou qui réagit plus, ou qui vous reproduit plus, ou qui... Et même si on s'astreint à un strict équilibre des forces en présence, si j'achète un t-shirt à l'un, j'achèterai le même t-shirt à l'autre. N'empêche qu'il y a toujours un préféré. C'est faux ?
C'est faux.
Je suis content de l'apprendre. Pour Dieu, c'est faux en tout cas. On est tous... Non, pardon. Chacun est son préféré. Chacun est son préféré. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir une relation exclusive avec chaque être humain. ce qui me fait voir les gens différemment. Parce que quand il est question d'être ministre de la réconciliation, de parler de Jésus aux gens, d'annoncer l'évangile, comment tu veux que je parle à la terre entière? Qu'est-ce que ça va faire comme différence? Qu'est-ce que? Oui, mais Dieu ne te demande pas de parler à la terre entière. L'amour que tu dois manifester, non, je vais le dire autrement, l'amour que automatiquement tu vas manifester, tu vas le manifester à un être humain que tu as en face de toi à un instant T, qui ne fait pas partie d'un plan en disant « Ah, j'ai mon quota, moi, hein, quand je suis sur terre, chaque année, il faut que j'amène une personne par mois au Seigneur. » Non, ce n'est pas ça. C'est, tu vas commencer à voir les gens comme des gens, c'est-à-dire comme un être humain, et tu vas surtout arrêter de les catégoriser entre chrétien, pas chrétien. Il vient à l'église, oh, il ne vient pas à l'église. Mais Dieu a aimé chaque être humain et il continue d'aimer chaque être humain. Qui a parlé de chrétien ou d'église? Si Dieu avait aimé les chrétiens, il n'aurait pas envoyé Christ. Ou plutôt, c'est un paradoxe. Et là, normalement, vous avez le cerveau qui commence à tourner en boucle parce que ça veut dire qu'il aurait envoyé Christ à des gens qui avaient déjà Christ. Vous savez que Dieu aime les violeurs. Je n'ai pas dit qu'il aimait le viol, hein. J'ai dit qu'il aimait les violeurs. Autant qu'il t'aime toi. Plus, non, moins non plus. Autant qu'il t'aime toi. Autant que tu aimes ton gosse. Ou ton neveu, ou ta nièce, ou ta fille, ou ta sœur, ou ta mère, ou peu importe. Autant qu'il t'aime toi. C'est surprenant, hein? Ensuite, il nous a dit, ça va, vous êtes avec moi? Je sens que j'ai votre attention. C'est bien, parce que ça veut dire que je suis en train de réussir à communiquer ce que j'ai vécu. Dans Jean 1,16, il nous est dit que nous avons tous été comblés de ses richesses. Chacun de nous, vous entendez ce que je dis? Chacun de nous. C'est-à-dire que j'ai commencé à relire les versets et j'ai vu à chaque fois à quel point il était question d'un être humain, un par un après l'autre, un à la fois, un à un. Chacun de nous. C'est-à-dire que quand Jean écrivait ça, a posteriori, je pense qu'il veut dire « Oh, c'est merveilleux, Dieu est venu et il nous a tous bénis, on était 12 là, non. » Il est en train de calculer dans sa tête en disant « Mais attends, moi j'ai été comblé des richesses de Dieu. Mon frère, quand je me souviens de là où il venait, il a été comblé des richesses de Dieu. Pierre, il a été comblé des richesses de Dieu. Le frère, il a été comblé des richesses de Dieu. » L'autre, même Judas, il a été comblé des richesses de Dieu. Mais maintenant que j'y pense, on a tous été comblés des richesses de Dieu. Il n'y en a pas un qui est resté sur la touche. Un à un, chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. C'est-à-dire que même dans les bénédictions qu'il te donne, Dieu n'est pas en train de dire « Tiens, regarde ». Voilà, un package, un grand carton, allez, tu as tout ce qu'il te faut maintenant. Non, c'est, il te donne ce dont tu as besoin au fur et à mesure et il pèse chaque cadeau qu'il te fait. Et il réfléchit à ce qui est le meilleur pour toi au moment où tu en as besoin. Nous ne sommes pas partis d'une masse. Je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Ensuite, il nous est dit, en effet, si la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais quelqu'un nous l'a révélé, le Fils unique, qui est lui-même Dieu. Tu comprends que ce n'est pas simplement que Jésus a été élevé à un rang d'autorité divine. C'est que Jésus est Dieu, la substance de Dieu. Et qui vit dans l'intimité du Père. La grâce, cette faveur, cet amour immérité, et la vérité, c'est-à-dire qui vraiment Dieu est pour toi, qui tu es vraiment pour lui, ça a été révélé par Jésus-Christ. Bien sûr que les Juifs n'ont pas la même relation avec Dieu que ce que nous avons. Ça, c'est pas encore... Ils ne l'ont pas encore tous saisi. Eux, c'est la foudre au Sinaï, quoi. Sauf que ça n'est pas la vérité. Vous comprenez ? Ensuite, ça m'a amené à me poser une question, mais pourquoi est-ce que je veux que les gens méritent la grâce ? Vous savez, c'est fou comme... Il y a un verset qui s'adresse aux pharisiens, mais je me le suis pris pour moi. Il dit « Malheur à vous parce que vous parcourez ciel et terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois pire que vous. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il s'agit d'aller annoncer la grâce de Dieu à quelqu'un qui ne le connaît pas, dans le meilleur des cas, on ne conditionne pas cette grâce. On va simplement annoncer l'amour de Dieu pour la personne. Ouais ? Puis quand la personne a franchi les portes de l'église à sa carte de membre, là ça devient conditionnel. Quelqu'un peut m'aider ? Oui, mais bon, est-ce que toi tu m'as aidé ? Mais si c'est un inconverti qui te dit ça, ah oui, je vais y aller parce qu'il faut que je lui parle de Jésus. Et une fois qu'il a reçu Jésus, on fait quoi ? On continue de manifester l'amour de Dieu pour les gens ou pas ? Ou on commence à mettre des conditions à la grâce ? La question peut se poser aussi en amont. Quand tu as, par exemple, un collègue de travail dont tu connais le style de vie beaucoup trop libéral à ton goût, qu'est-ce que ça suscite chez toi ? Est-ce que ça suscite de la compassion en disant « il faut qu'il rencontre Jésus » ou est-ce que ça suscite du jugement, de la condamnation ? Tu dis « oh ben, je vais pas aller lui dire, quand même, je suis au-dessus de ça, hein. Ah, tu vas aller en enfer, tu vas... » Non, 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 mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus subtil que ça. Est-ce que tu commences à faire mériter la grâce à cette personne ? Quand tu vois des gens à la télé qui font certaines choses, qu'est-ce que ça suscite chez toi ? Si ça ne suscite pas l'amour de Dieu, il y a de fortes chances que tu aies besoin, toi, de te replonger dans l'amour de Dieu. Parce que ça, c'est un schéma qu'on reproduit. On va être à l'égard des autres comme on estime que Dieu est à notre propre égard. Donc, si tu as une vision de Dieu qui est une vision père fouettard, herr colonel, herr commandante, c'est exactement comme ça que tu vas te comporter à l'égard des autres. Ce qui veut dire que tu as besoin de te replonger dans qui tu es pour Dieu. De l'importance que tu as à son égard. Donc, on a une tendance à faire mériter la grâce aux gens quand il s'agit de prier pour les autres. Qu'est-ce que tu ferais si tu apprenais que quelqu'un qui a eu des relations homosexuelles autour de toi a chopé le sida. Est-ce que ton cœur serait rempli de compassion et de miséricorde à l'égard de cette personne ? Est-ce que tu prierais pour que cette personne soit guérie et délivrée de cette chose-là ? Ou est-ce que, comme moi, tu dirais « Oui, mais c'est l'autorisation alors. » Alors c'est open bar. La personne est guérie, elle retourne dans son péché. Puisqu'en plus, maintenant, elle sait qu'il y a un remède. Mais elle ne mérite pas. Après tout, il ne l'a pas volé. Et tu passes complètement à côté de la grâce de Dieu. Parce que si la personne, elle est guérie, elle pleure à genoux. Et c'est ça qu'il faut qu'on saisisse. Ce n'est pas la condamnation et la culpabilité qui vont faire amener les gens au Seigneur, qui vont faire prendre conscience aux gens de l'amour que Dieu a pour eux. Je continue. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, pas le ministère de la loi. T'es pas Moïse qui descend du Sinaï. T'as pas un éclair dans la main droite et tape dans la main gauche pour dire « Hey, je vais vous ramener dans le droit chemin ». C'est le ministère de la réconciliation que tu as reçu, que nous avons reçu. Tu dis « J'aime pas aller distribuer des flyers sur la promenade des Anglais ». Ça tombe bien, c'est pas ce que Dieu te demande. C'est pour ça qu'on a arrêté d'ailleurs dans cette église. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Manifeste de la compassion à l'égard des gens autour de toi. Parle de Jésus comme celui qui aime et qui délivre. Impose les mains aux gens. J'y viens. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dans Matthieu 8, 16, il y a quelque chose de très intéressant qui est écrit. Regardez, Matthieu 8, 16. Je sens que je vais réfléchir, c'est très bien. Matthieu 8, 16. Matthieu 8, on va commencer au verset 14 même. Bon, Jésus vient de faire une guérison miraculeuse à distance. Ensuite, il rentre chez Pierre et il nous a dit au verset 14 que quand il fut arrivé dans sa maison, il trouva sa belle-mère alitée avec une forte fièvre. Quand il la vit ainsi, pas quand Pierre est venu lui demander de prier pour sa belle-mère. Il aurait peut-être pu attendre longtemps, remarque. Quand Jésus la vit ainsi, quelle a été sa réaction ? Il lui prit la main. Première chose qu'il a faite, la compassion. Il ne s'est pas posé la question 20 ans de savoir pourquoi elle avait une forte fièvre. Peut-être qu'elle n'était pas assez couverte hier soir quand elle est sortie. Mais ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Ça n'a aucune importance. Il n'a pas fait passer un curriculum vitae à la belle-mère de Pierre pour savoir si elle méritait la grâce, méritait la guérison ou pas. Il l'a vue avec une forte fièvre et la compassion qu'il a immédiatement ressentie à son égard fait qu'il a voulu la guérir. Et la fièvre la quitta. Pourquoi ? Parce que la foi est agissante par l'amour. Et que quand on se demande « Mais est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher ?» Ce n'est pas le genre de question que tu te poses si vraiment tu es rempli d'amour pour la personne qui est en face de toi. Tu veux que ça marche. Et c'est pour ça que souvent, les prédicateurs qui imposent les mains aux gens ne le font pas forcément à la chaîne. Des fois, le Saint-Esprit leur enjoint de faire ça. Mais n'impose les mains à personne avec précipitation. Laisse l'amour de Dieu te guider dans ce que tu es en train de faire. Et la fièvre la quitta parce que Jésus avait la foi, mais que cette foi aurait été stérile s'il n'était pas motivé par l'amour de Dieu à l'égard de cette femme. De sorte qu'elle se leva et se mit à les servir. À la tombée de la nuit, je me demande si ce n'était pas Shabbat ce jour-là. Certainement parce que les gens ont attendu la tombée de la nuit, c'est-à-dire la fin de Shabbat, pour pouvoir porter les brancards, ils n'ont pas le droit de porter à Shabbat. À la tombée de la nuit, on vint lui amener beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Et d'un seul mot, il chassa ces mauvais esprits, toujours motivé par l'amour de Dieu. Jamais motivé par la gloriole. Jamais motivé par le truc de dire « Ah, je vais éprouver des frissons en chassant un démon, là. » C'est l'amour de Dieu qui fait qu'il a compassion de ces gens qui sont emprisonnés. Et ensuite, il a dit quelque chose qui m'a marqué cette semaine. Il guérit aussi tous les malades. Dites-moi, il n'y avait que des saints dans cette ville ? Ou il y avait quelques maris qui trompaient leurs femmes aussi ? Ou il y avait quelques gens qui volaient ? Et il ne s'est pas posé la question. Ou peut-être qu'il se l'est posé, mais que l'amour de Dieu a été plus fort que ça. Il a guéri tous les malades. Tiens, je vais aller encore plus loin que ça. Il ne nous est pas dit que tout le monde l'a reconnu comme le Messie. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu... Attends, d'abord, il faut que tu naisses de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut que tu viennes à l'église. La bonne nouvelle, bien entendu. Parce que... mais avant cela, il faut que tu, d'abord, tu restes assis 3 mois sur ta chaise, puis que tu ailles à dites-moi plus... que tu sois validé par le conseil d'administration, puis, ensuite, on t'assignera un badge qui te permettra de venir quémander la prière, le conseil d'administration se réunira à nouveau, regardera ton curriculum vitae, puis t'imposera les mains, et bien entendu, si tu as la foi, et que tu sers dans l'église, si tu as la foi, alors tu seras guéri. Ou mort, peut-être, le temps que... Non. Il a juste vu des gens malades en face de lui, il les a guéris. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le Nouveau Testament, c'est que beaucoup de gens qui l'ont reconnu comme le Messie, ça a été après qu'il ait pu manifester l'amour de Dieu à leur égard. Pas avant. Il n'y a pas de condition pour la grâce. C'est justement pour ça que c'est la grâce. Il n'y a pas de condition. L'amour de Dieu, c'est ce qui te motive à aller imposer les mains aux gens qui sont malades autour de toi. T'as une opportunité, clac, tu la prends tout de suite. Ça marche ? Génial. Ça marche pas ? C'est pas grave. C'est pas grave. Passe au prochain. T'as quand même manifesté l'amour de Dieu à l'égard de la personne. T'as quand même pensé à la personne. Et je crois que, enfin je crois pas, c'est sûr, plus il fait sombre, plus la petite bougie, elle a de l'importance. On les cherche vite les allumettes quand il y a une panne de courant. Hein. On est content, ne serait-ce que de pouvoir craquer l'allumette pour retrouver son chemin. Hein. Ok ? Il les guérit tous de leur maladie. Il n'y a pas eu de condition. Il n'y a pas eu de « je vérifie ton passé ». Il n'y a pas eu de « oui mais forcément, t'as fait ça, donc forcément t'es tombé malade ». Non, ça faisait pas partie de l'équation pour lui. Ça ne fait toujours pas partie de l'équation pour lui d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que la guérison divine, ce n'est rien d'autre que la manifestation de l'amour de Dieu pour les gens. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un procédé, ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est la manifestation de l'amour que Dieu a pour quelqu'un qui fait qu'automatiquement il veut guérir la personne. Et toi, tu es quoi ? Tu es le canal de la manifestation de cet amour. D'abord parce que tu as toi-même ressenti cet amour. Vécu cet amour. Et ensuite, tu veux aimer les gens autour de toi. Vous comprenez comment ça marche ? Comme le reste d'ailleurs, tout le reste, ce n'est que la manifestation de l'amour de Dieu. Et il n'y a pas de mérite là-dedans. Mon beau-père disait, ça m'avait un peu interpellé il y a des années de ça. Il dit, mais moi je connais des pécheurs ou des froids en Christ qui ont leur miracle quotidien. Ah bon ? Oui. Ils y connaissent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est que Dieu est bon et qu'il les aime. Ça remet certaines choses à leur place parce qu'on se dit, mais attends, mais alors, et toutes les... à quoi ça sert de faire toutes ces années de... Qui a dit que tu faisais toutes ces années pour pouvoir être plus béni ? Que ça dépendait de ta connaissance théologique. Il les guérit tous, tous. Et la foi est agissante par l'amour. Et donc, au fur et à mesure, je me remémorais les Écritures et je me disais, un par un. Quand les gens ont amené leurs enfants pour que Jésus les bénisse, les disciples n'ont vu qu'une masse. Jésus a vu un être humain, individuel. Il s'appelle Simon, il a 6 ans et demi, et je sais exactement où je veux l'amener dans sa vie. Je sais exactement combien d'enfants il aura, je sais exactement où il va habiter, je sais exactement qui il va épouser, ce qu'il va faire comme étude ou pas. Je sais exactement le genre d'accident qu'il est susceptible d'avoir, et je veux lui imposer les mains. Tu vois, ils ont vu des marmots, quoi. Ils ont vu la marmaille qui faisait brailler, tourner autour, et tout le monde qui se jouait des coups. Non, mais moi, je veux qu'il... C'est des mères juives, hein, je vous rappelle. Je veux qu'il... Le mien d'abord. Bénis le mien. Et lui, il a vu des gens. Il a vu des gens dans les enfants. Il a vu des gens dans le parent. C'est ça qui a fait qu'il a imposé les mains à chaque enfant. Et puis après, j'ai commencé à me rappeler un peu à la chaîne... Tous les miracles, souvent c'est une personne. La femme à la perte de sang, c'est une personne. Jaïr et sa fille, c'est une personne. Le serviteur du centenier, c'est une personne. La femme au puits, la samaritaine, c'était une personne. Tu dis, ah, il avait en vue la ville. Non, il avait en vue la femme. Il se trouve que la femme, sa réaction naturelle, a été d'aller partager dans la ville ce qu'elle avait reçu, parce que elle, c'était le choc de sa vie qu'elle venait de se prendre, dans l'amour. Même cette prophétie n'était qu'une manifestation d'amour. C'était pas. Oui, bon, tu as eu 5 maris, c'est bien. Mais bon, celui avec lequel tu vis actuellement, vous connaissez le passage, hein ? Pas marié. Alors tu vas te marier et tu reviendras. Non, même ça, c'était une manifestation d'amour. Elle a été tellement choquée, elle est repartie en ville, elle a ramené toute la ville avec elle. Est-ce que Jésus avait en vue la ville ? Je pense pas. Il avait en vue cette femme. Peut-être que le Saint-Esprit, lui, savait ce qui allait se passer derrière. Il avait en vue cette femme. Tous, la femme syrophénicienne, une personne. la belle-mère de Pierre, une personne. Tu vois, je pense qu'il est bon, ceux d'entre nous qui disent « Ah, mais moi j'ai envie de prêcher sur une estrade à des foules, à la Reinhard Bonnke. » Ouais, tu le feras jamais tant que tu vois pas 1 million de une personne en face de toi. Et ceux qui vont pas sur l'estrade, tu as quand même des une personne autour de toi, vers lesquelles Dieu t'appelle. Nous comprenons comment ça se passe. Donc peut-être que pendant que je vous parle, vous commencez à avoir, tu commences à voir ta collègue de travail, tu commences à voir ta grand-mère, tu commences à voir ton voisin, tu commences à voir le clochard, celui qui est en bas au pied de ta boulangerie, tu sais. Ah ouais, mais qu'en dira-t-on? Donc tu as peur. Donc tu n'es pas encore dans l'amour de Dieu. Et tu as besoin, avant d'aller voir le clochard, de te rebooster dans l'amour de Dieu à ton égard, de savoir que tu n'as pas à avoir peur parce que tu es le fils bien-aimé de Dieu, qu'il n'est que favorable à ton égard, qu'il n'est qu'amour pour toi. Et ensuite, fort de cette révélation, tu dis jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que tu aies la révélation. Et ensuite tu verras que le qu'en dira-t-on, tu t'en fiches complètement. Vous comprenez comment ça marche ? Une personne à la fois. Quand la semaine dernière, j'ai reçu Tristan et sa famille à la maison, et puis Tristan a dit « Ah, moi j'ai vu un super documentaire, je ne sais plus si c'était Tristan ou Martin, j'ai vu un super documentaire, j'aimerais vous le montrer. » Et c'est un jeune Américain, je qu'il doit avoir quoi, 38, 39, quelque chose comme ça, il s'appelle Darren Wilson, oui, un bébé. Darren Wilson, je suppose qu'il a dû faire des études de journalisme, il a sa caméra et il dit « Moi, je veux faire un envoyé spécial sur ce que Dieu fait sur Terre aujourd'hui. » Donc il prend sa caméra et il part aux quatre coins du monde et il montre ce qui se passe. Donc le documentaire, vous pouvez l'acheter sur Internet, le télécharger ou autre. En français, ça s'appelle « Père des Lumières », en anglais donc « Father of Lights ». Et montre ce type qui suit certaines personnes qu'il connaît, qui ont décidé de dire « Moi, mon métier, aller parler de l'amour de Dieu aux gens, prier pour les gens dans la rue. » Et il montre comment... Alors il y en a un, ça se passe au fin fond du sud de l'Inde. Il vit des trucs... il faut voir le documentaire, hein, je vous le recommande, vraiment, vraiment, vraiment. Il y en a un autre, c'est en Californie, ou je ne sais plus où, sur une plage. Hein, et le troisième, c'est dans les boîtes de nuit aussi. Et le troisième, lui, il était en l'occurrence à Jérusalem à ce moment-là. Et les trois, entrecoupés de séquences d'autres orateurs connus, il y a un petit passage d'Andrew Womack à un moment donné, Heidi Baker qui était là aussi. Et tous, ce sont des gens qui sont, Reinhard Bonnke aussi, qui sont marqués par l'amour de Dieu. Ils disent, mais c'est tellement énorme cet amour qu'il a manifesté, qu'il continue de manifester à notre égard, on ne peut pas faire autrement que d'en parler autour de nous. Reinhard Bonnke disait d'ailleurs quelque chose de très intéressant, il dit, dans toutes les autres religions, l'homme dresse une table, un autel pour l'élever vers Dieu. Il dit, dans le christianisme, c'est Dieu qui dresse la table pour toi et il t'invite à la table. Et donc, il montre ce qui s'est passé. Donc, il y a des guérisons, il y a beaucoup de choses, je vous encourage à le voir. Mais ce qui m'a marqué, moi, j'ai dû prendre à un moment donné mon carnet, j'ai dit, il faut que je prenne des notes, c'est pas possible. Ce qui m'a marqué, c'est 1 à 1. Les trois qui filment ne sont pas sur une estrade en train de prêcher. Ils sont sur le trottoir et la conversation se fait avec quelqu'un. Ils n'ont pas un panneau « Venez, je vous parle de Jésus hein. ». La conversation se fait. Il y en a un, celui qui est en Inde, il dit tous les jours. C'est une grâce que Dieu lui a accordée. Tous les jours, il entend la voix audible de Dieu lui dire ce qu'il doit faire dans la journée. Tu dis, ah, j'aimerais avoir ça. Je ne suis pas certain. Ce jour-là, Dieu lui a demandé d'aller voir au fin fond de la forêt un sorcier connu pour ne pas sacrifier que des animaux, mais également des bébés. Tu veux toujours entendre la voix de Dieu ? Qu'est-ce qui a emmené ce type au fin fond de la brousse ? l'amour pour quelqu'un qui était perdu. Et je vous dis pas la suite, vous regarderez le documentaire. Mais l'autre, pareil, il a fait d'autres documentaires. Il montre à un moment donné des extraits. Il y en a un, je fais, mais c'est Monaco. Celui qui est à Jérusalem, qui ressemble plus à Bob Marley qu'autre chose, c'est assez marrant d'ailleurs, à un moment donné, il est sur le port de Monaco. Devant un yacht, il est en train d'imposer les mains à quelqu'un. Un à un à un, il voit les gens comme des gens. Il voit Janine en face de lui. Il ne voit pas le numéro 47. Vous comprenez comment ça fonctionne ? Ensuite, et j'en terminerai avec ça, regardez dans Actes chapitre 20. Il y a tellement d'autres versets. Moi, je vous encourage, quand vous allez relire vos écritures, pas seulement celles que je viens de partager aujourd'hui, mais quand vous lisez votre Bible au quotidien, regardez à quel point c'est un à un. À un moment où je vous parle, il y en a d'autres qui viennent. Philippe et l'eunuque éthiopien. Vous vous souvenez, on a parlé il y a 15 jours de ça, qu'il y avait eu cette persécution contre l'église de Jérusalem. Ils ont tous fichu le camp, sauf les apôtres. Et Philippe, qui était un des diacres, après la lapidation de Étienne, s'entend enjoindre par le Saint-Esprit de se lever et d'aller sur la route du bord de mer. La route du bord de mer, c'est la route de Gaza. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que c'est aussi parlant que ça l'était à l'époque. Il a rencontré à ce moment-là, après être passé par Samarie, il a rencontré à ce moment-là un eunuque éthiopien. D'ailleurs, bon, ça ne change pas la vie. Non. C'était l'administrateur de tous les biens de la reine de Saba. C'est déjà mieux. Et ce type était sur son chariot en train de retourner chez lui et il lisait le prophète, Ésaïe. Dieu n'a pas envoyé, on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Quand ce ministre a été baptisé et est né de nouveau, qu'est-ce qu'il a fait dans son pays? J'en sais rien. Mais c'était une personne que Dieu avait à cœur. Et il a pris Philippe et il l'a emmené à cet endroit précis pour parler à une personne. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on s'enlève de la tête de vouloir faire du chiffre et de la masse. D'abord parce qu'on ne le fera pas dans ces conditions. D'ailleurs, on va tellement être paralysé par le truc, dire « bon, ben, je sais pas où il faut que j'aille ». Non, 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 non. Médite l'amour de Dieu à ton égard. Qui tu es pour ton père? Tu dis « mon père, dans le naturel, ça m'a pas vraiment aidé à savoir qui je suis pour mon père spirituel ». Alors tu as besoin de méditer deux fois plus que les autres. Et à ce moment-là, tu vas commencer à voir ta boulangère différemment. Tu vas commencer à voir ton patron différemment. Peut-être ton frère ou ta sœur, dans le naturel, différemment. Actes chapitre 20, il nous est dit au verset 31. Vous savez, c'est Paul qui sait qu'il est sur la fin de parcours, et il fait un dernier voyage. En réalité, c'était l'avant-dernier, il ne le savait pas. Et il fait venir à lui tous les responsables de la ville d'Éphèse, tous les responsables chrétiens, les anciens de la ville d'Éphèse, pour leur parler, un peu comme un espèce de discours d'adieu. Et il dit des choses intéressantes, parce que Paul, on l'imagine comme le grand apôtre de la foi. Alors lui, s'il y en a un qui cherchait le nombre, c'était bien lui, il voulait... Mais même lui, c'était un à un à un à un. Même lui, qui était un type dur, même lui, il a été tellement touché par l'amour de Dieu qu'il a commencé à voir les gens comme des gens. Et il nous est dit ici, verset 31, « Soyez donc vigilants, rappelez-vous que pendant 3 années, je n'ai cessé la nuit comme le jour, de vous conseiller et de vous avertir. » Ici, il y a écrit « chacun de vous ». Et moi, dans ma version, il y a écrit « un à un », parfois avec des larmes. C'est ce qui est écrit aussi ici. « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter. » Moi, dans ma version, c'est « vous conseiller, exhorter, encourager. » Chacun de vous avec larmes. C'est-à-dire que non seulement il faisait du tête-à-tête, et que pour lui, il voyait un tel, non pas comme un pion placé sur l'échiquier des églises qu'il avait créées au Moyen-Orient, ou autour de la Méditerranée, mais comme des gens. Alors, conscients de l'appel qu'ils avaient, conscients de la mission qui était la leur, mais comme des gens. Et nuit et jour, pendant 3 ans, il a passé son temps à encourager chaque personne, conseiller chaque personne. Et il nous a dit que c'était parfois avec des larmes. Vous vous rendez compte à quel point la compassion de Dieu a touché cet homme, lui qui était un type dur, c'est un euphémisme, au point qu'il considère des gens qui n'étaient même pas forcément juifs, même pas forcément ses frères de religion ou de famille ou de clan ou de tout ce que vous voulez, comme dignes d'être conseillés en tête à tête pendant 3 ans, nuit et jour, au point d'en pleurer parfois, de compassion pour la personne. Alors voilà, je pense que ça mérite réflexion. Une fois encore, ne prenons pas les choses dans le mauvais sens. Il ne s'agit pas de repartir d'ici en disant « Allez, j'ai du boulot !» Et pouvoir... Non, c'est que tu n'as pas compris. Alors réécoute le message. Nourris-toi de l'amour de Dieu à ton égard. Tu dis « Mais j'ai peur d'aller trop loin. Finalement, peut-être que je vais dépasser la pensée initiale de l'auteur. » N'aie pas peur à ce sujet, tu ne pourras pas. À moins que tu puisses me donner en chiffres la valeur de Dieu. Quantifie-moi Dieu. Et là, tu pourras dire « Ah, un cran de plus, je suis au-delà. » Et ensuite, rempli de cet amour, alors tu commences à impacter ton monde autour de toi. Le ministère de la réconciliation. Et tu sais quoi? Ça ne se mérite pas l'amour de Dieu. Il t'aime tellement qu'il est mort pour toi et ressuscité pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux... Écoute, je vois que tu dis que tu as mal, ça fait un moment que je t'entends dire j'ai mal au nerf sciatique, j'ai mal à la tête, j'ai mal... Est-ce que tu permets que je prie pour toi? Ouais, mais ils pensent que tu pries à l'église, que tu allumes un cierge pour eux. C'est ça qu'ils pensent les gens quand tu leur dis ça. Non, est-ce que tu permets que je t'impose les mains maintenant, que je prie pour toi maintenant? Il dira oui, il dira non, mais c'est pas grave. Tu viens quand même de manifester l'amour de Dieu à son égard. Puis peut-être qu'il va dire oui. Et là, tu vas pouvoir le faire. Il sera guéri, il sera pas guéri. C'est pas grave. Tu as manifesté l'amour de Dieu à son égard, mais peut-être qu'il va être guéri. On a oublié, j'ai l'impression, commencer d'être sans Dieu. Voilà, le ministère de la réconciliation. Et je suis ravi d'entendre, je reviens à Tristan. Tu permets que je raconte ce que tu m'as raconté hier? Et j'entends Tristan, en fait c'est lui qui m'a soufflé ce message. M'a encouragé parce que il a vu ses fameux documentaires en premier et ça a ravivé beaucoup de choses en lui. Et puis sa relation avec Dieu a pris, je pense, une autre tournure, hein, on peut le dire, hein, carrément. Et il me disait donc qu'il a acheté un véhicule dernièrement et que le particulier lui amène le véhicule à la maison. Et ce particulier, c'était une moto, et ce particulier, de lui dire, ce vendeur, de lui dire, à plusieurs reprises, Tristan me dit, mais il insiste le gars, lourdement quoi, vous savez, moi j'ai des problèmes de dos maintenant, j'ai mal au dos, j'ai des problèmes de dos, j'ai... Bon, alors, on fait affaire pour la moto, Tristan d'ailleurs est super béni au passage, donc c'est génial, est-ce que vous voulez prendre un café? Montez, c'était chez eux, on prend un café, très bien, on discute autour de la table. Et à un moment donné, il dit, écoutez, moi, dites que vous avez mal au dos, écoutez, moi je suis croyant, est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Martin, tu peux venir s'il te plaît? Oui. Ils ont prié pour le gars. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toi non plus d'ailleurs, tu n'as plus de nouvelles depuis. Qui sait ce que l'avenir réserve? Qui sait ce que ce type il a expérimenté en rentrant chez lui? D'ailleurs, qui sait le simple fait de lui avoir parlé de l'amour de Dieu et de lui avoir dit « je vais prier pour vous ». C'est ça, il s'est posé beaucoup de questions sur sa foi, ça a ravivé quelque chose, exact. Donc voilà comment on change le monde autour de nous. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Pas forcément à monter sur des estrades, j'ai beaucoup de respect pour l'estrade, c'est pas la question, mais pas forcément à aller faire imprimer 3000 flyers pour les distribuer dans les boîtes aux lettres des gens. Dieu t'appelle à faire ça, c'est super, fais-le, il sait ce qu'il est en train de faire. Dieu ne t'appelle pas à faire ça, ben, fais ce qu'il t'appelle à faire. C'est-à-dire, avant toute chose, médite sur son amour pour toi. Et ensuite, ben, change ton monde. Change ton monde au fur et à mesure. La foi, elle est agissante par l'amour. On est dans une église de la foi ici, n'est-ce pas? Donc on apprend beaucoup au sujet de la foi. On lit sur la foi, on passe du temps là-dedans, on va à des écoles bibliques, on est enseigné pendant des week-ends entiers, et c'est super. C'est super. Est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13, si j'ai pas l'amour, je n'ai rien, je ne suis rien, ça ne me sert à rien. À rien. Je pense aux migrants. Pourquoi, j'en sais rien, c'était pas dans mon message. Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu vas faire, si tu fais quelque chose? Tu peux commencer par prier, pourquoi tu le fais? Tu peux acheter un gel douche et aller le donner, pourquoi tu le fais? Pourquoi? Parce que nous sommes une église sur Nice et que nous vous voulons, au nom de Jésus, montrer que nous sommes impliqués dans l'action caritative locale afin de pouvoir... Voilà. Je serais super sur France 3. Non, mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Tu as de la compassion pour ces gens ou pas? Je dis pas qu'il faut ou qu'il faut pas, ça te regarde. Je dis, qu'est-ce qui te pousse à faire les choses? Ça fait un moment que je dois parler à ma collègue de travail de Jésus, mais j'hésite, comment il faut que je prenne le truc, Ne le fais pas. Ne le fais pas. T'es en train de le faire sous la pression. Et elle va croire que tu veux lui vendre un aspirateur. Ça sert à rien. Vous savez qu'on n'a rien à vendre? Vous savez qu'on n'a rien à vendre en tant que chrétien. Seigneur, merci. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise d'autre, Seigneur? Merci. Pour cet amour, j'allais dire incroyable. Il faut y croire, justement, mais... que tu manifestes à notre égard. Je veux méditer là-dessus. Je veux me plonger là-dedans. Me nourrir de ça. Me couper de tout ce qui pourrait me couper de ça. Seigneur, je crois. C'est par la foi qu'on reçoit ton amour. Je crois que tu m'aimes. Au-delà de tout ce que mes mots peuvent exprimer. Je crois que toute cette Bible, toute cette terre que tu as créée, tout ce plan que tu as, ce n'est que dans un seul but, manifester ton amour à notre égard, à mon égard. Merci Seigneur, tu continues de le faire. Saint-Esprit, tu continues de déverser l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et ensuite, rempli de cet amour, Seigneur, tu nous montres ce que nous devons faire, tout simplement. Tout simplement. Rempli de cet amour, tu nous montres, Seigneur. Et nous croyons au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que nous allons voir des choses se passer. Nous croyons, Seigneur, que nous allons voir ta gloire en manifestation autour de nous. Maintenant, dans notre génération, ni en 2040, ni en l'an 30, aujourd'hui là, en 2015, et demain en 2016, voir ces choses en manifestation, les gens vont en parler, les journaux vont en parler. Ils vont parler des guérisons, mais ils vont surtout parler de l'amour de Dieu. Fais-nous des instruments, Seigneur, entre tes mains pour cela. Non seulement nous sommes tes fils et tes filles bien-aimées, nous sommes ton fils et ta fille bien-aimée, mais en plus, ensuite nous sommes des vases qui allons apporter ça à notre génération, Seigneur. Nous allons partager l'amour de Dieu, ouvrir la porte à l'amour de Dieu dans ce monde qui souffre, Seigneur, qui ne connaît pas cet amour. Et pourtant, il est là, à disposition. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous te rendons déjà gloire par avance, Seigneur. Merci. Voilà le sens de la vie. Voilà la raison pour laquelle on est sur terre. Ce n'est que pour ça, Seigneur. Si c'est pour passer plus de temps avec toi, autant aller au ciel direct. Ce n'est que pour ça. Ce que disait Paul, Seigneur. Il est plus utile qu'il reste plutôt que ce qu'il parte. Change nos cœurs. cœurs, tu changes nos façons de penser, tu changes, Seigneur, tu mets la pensée de Christ en nous. Amène chacun dans les Écritures. Saint-Esprit, merci parce que tu nous transformes de l'intérieur. On ne veut pas jouer à l'église. On ne veut pas fabriquer quelque chose. On ne fait pas partie d'un club. Ça ne m'intéresse pas, Seigneur. Moi, je veux être transformé par toi, changer mon monde. Changer mon monde. Peu importe ce qu'ils diront, peu importe ce qu'ils feront. Merci, Seigneur. Amen.